Alors, nous sommes en studio avec Alain Deneau. Bonjour, Alain.
Bonjour.
Alors, j'aurais presque envie de dire qu'il n'y a plus besoin de te présenter, mais on va le faire quand même. Tu as été bien connu pour le livre Noir Canada, mais je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres choses à ton actif. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu?
Oui, je fais de la recherche en sociologie à l'UQAM. J'ai fait des recherches, des travaux antérieurement en philosophie politique. Qui m'ont amené à m'intéresser aux relations Nord-Sud, mais aussi à la question de la criminalité financière et l'impact, je dirais, des paradis fiscaux et plus largement des législations de complaisance sur la vie démocratique dans ce qu'on appelle les États de droit, quoi, les États traditionnels.
Alors, je t'ai invité aujourd'hui dans l'idée d'échanger sur certaines questions spécifiques des rapports Nord-Sud, spécifiquement du Canada, qui sont d'un côté l'aide publique au développement comme partie de l'aide de la politique étrangère du Canada, mais aussi un peu plus tard peut-être se lancer sur le rôle des ONG et des autres groupes dans ce contexte-là. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais placer comme contexte sur la politique étrangère du Canada et l'aide au développement.
Ben, je suis ravi qu'on puisse en discuter dans la mesure où j'estime qu'il s'agit de ce dont tu parles, quoi, c'est-à-dire le rôle de la coopération internationale, vous la nommez ainsi, du Canada dans les pays du Sud, est un aspect qu'on n'a pas autant fouillé qu'on aurait pu le faire en écrivant Nord-Canada. Donc avec Delphine Abbatier, William Saché, on a produit ce livre en 2008. Donc Nord-Canada qui se veut une synthèse de la documentation internationale qui existe à l'échelle mondiale sur le rôle d'intérêt canadien en Afrique, là, essentiellement des multinationales dans le domaine minier, mais aussi dans le domaine... Pardon, dans le domaine pharmaceutique ou dans le domaine du transport ferroviaire et pétrolier et autres. Et en fait, évidemment, on s'est intéressé non pas seulement à des cas, on en a cité plusieurs simplement pour montrer qu'il y avait tout un échantillon de cas qui avait été élaboré par des acteurs, des enquêteurs civiques, des journalistes ou des représentants d'organisations publiques. Et qui faisait état donc d'abus très graves de la part d'acteurs canadiens dans le domaine quant à l'environnement, la politique, la santé publique, la fiscalité, et ainsi de suite, ouais, et même la sécurité. Bon, on sait que, par exemple, dans Sierra Leone, au Congo-Kinshasa ou en Angola, des intérêts canadiens ont pu participer ou attiser des guerres. Bon, c'est ce qui n'est pas rien. Donc, on s'est intéressé à ça, mais simplement pour comprendre ce qu'en était du système qui, au fond, permet une telle exploitation, une exploitation aussi violente. Et donc, on s'est penché sur la bourse, on s'est penché sur le rôle d'acteurs canadiens à titre informel, par exemple, tous ces anciens premiers ministres qui travaillent ensuite pour ou dans des sociétés minières ou pétrolières. Jean Chrétien, Brian Mulroney au premier chef. Et on s'est aussi intéressé à des stratégies publiques visant à soutenir les intérêts miniers et pétroliers canadiens, dont l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, et cette espèce de fonds d'assurance qui est Développement et Exportation Canada, quoi. Ou Exportation et Développement Canada, selon l'appellation retenue. Et ce qu'on voit, c'est au moins deux choses, quoi. C'est d'une part, si on pense à ce que fait l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, une entreprise de marketing, au fond, qui ne dit pas son nom et qui vise à redorer l'image du Canada à l'étranger, précisément là où le Canada pourrait avoir des choses à se reprocher, c'est-à-dire là où l'exploitation minière est polluante, là où un site d'exploitation peut concourir à la corruption politique, à l'évasion fiscale, ou à l'élaboration de politiques qui sont tout simplement nuisibles pour le développement, paradoxalement sous le sceau de l'aide au développement. Là, tous ces codes miniers, par exemple, qu'on développe dans les pays du Sud, ou toutes ces modalités de bonne gouvernance qui visent essentiellement à établir un foyer d'accueil favorable pour le grand capital, sans pour autant que les populations profitent des investissements internationaux qu'il s'agit toujours d'attirer en plus grand nombre. Donc, en fait, le travail consiste à inviter Des honnêtes Canadiens, d'un grand travers à l'autre, là, de Moose Jaw à Chicoutimi, en passant par Waterloo, puis Halifax, quoi, et d'aller chercher des honnêtes Canadiens, tous plus vaillants les uns que les autres, qui vont, je ne sais trop quoi, creuser un puits dans telle région du Ghana, ou ouvrir un orphelinat au Malawi, ou je ne sais trop quoi, je veux dire, développer un petit projet souvent communautaire, ou qui va certes porter ses fruits, je veux dire, on est mieux vaut ça que rien si on est minimaliste, mais qui consiste essentiellement dans une stratégie plus large, peut-on le deviner, à projeter une image complaisante du Canada comme étant le pays ami des droits de l'homme, exemplaire du point de vue de la démocratie, capable uniquement du bien, le proche du genre humain, c'est toute cette espèce de propagande qu'on retrouve, exposée. En premier lieu, quand on se pointe dans les bureaux de l'Agence canadienne de développement international à Gatineau, quand on va à la place du portage à Gatineau et qu'on se présente aux locaux de l'ACDI, ce qu'on voit, c'est des dépliants où on voit chanter, je veux dire, l'œuvre charitable, quoi, de ces grands et vaillants Canadiens qui, d'un grand travers à l'autre de notre pays, je veux dire, s'enquièrent du sort des pauvres dans le monde. C'est une espèce de charité qui, au fond, maintient la pauvreté dans son état d'indigence et ne permet pas des changements de fond. Ça, c'est le premier rôle, l'ACDI. Le deuxième rôle, il est complètement contradictoire, c'est de financer. Et là, quand tu as des volumes d'argent infiniment plus importants, les entreprises canadiennes présentes en Afrique. Donc, on prétend que cette présence industrielle canadienne aide le développement. Donc, c'est l'espèce de dogme néolibéral là, qui est en cause. Comme on prétend qu'il y a un apport qui est manifeste de la part de sociétés qui exploitent les pays du Sud, mais on va laisser financer en disant qu'ainsi on aide le Sud. Ouais, donc il y a comme une sorte de supercherie à l'œuvre qui fait qu'il y a des millions de dollars des contribuables canadiens qui permettent ce développement, non pas des pays du Sud, mais des sociétés canadiennes présentes dans les pays du Sud. Et c'est cela qu'on retrouve au titre de l'aide au développement. Ensuite, quand on dit ben le budget de l'aide au développement, il est de tant de millions de dollars, par exemple, ben, en fait, c'est pas de l'argent qui profite au Sud du tout. C'est simplement une autre façon de canaliser un soutien public à une industrie privée qui n'a pourtant pas du tout besoin.
Puis justement, sur la question de l'image du Canada, depuis quelques années, les critiques envers le gouvernement canadien et ses pratiques à l'international sont rendues un peu plus faciles, je dirais, par une espèce de mécanisme que, comme c'est les conservateurs au pouvoir, c'est plus facile de les critiquer en quelque part dans beaucoup d'organisations sociales. Mais notamment, il y a eu quand même quelques changements qui ont été apportés par le gouvernement conservateur, dont au titre... au chapitre de la politique étrangère, le fait de arrimer officiellement les types de financement de l'ACDI aux priorités de la politique étrangère canadienne. C'est-à-dire qu'un pays qui a été peut-être financé, dont des groupes sont financés depuis des années, s'il ne fait pas partie de la priorité annuelle du gouvernement Harper, ne sera donc plus financé dans les petits papiers de l'ACDI, plus d'autres scandales de coupures à des organisations sur lesquelles on pourrait s'étendre plus tard. En quoi est-ce que ça constitue ou pas un changement? Parce que c'est effectivement un changement au sens de l'officialité. Est-ce que c'est juste une continuité logique? Est-ce qu'il y a vraiment un volet de l'ACDI qui servait à la bonne image, qui est même plus à l'œuvre, en fait, en quelque part, ou...
Mm-hmm. Ta façon de formuler la question m'amène à voir quelque chose là qui est à laquelle j'avais pas vraiment pensé avant. C'est le fait que par le caractère arbitraire de l'aide canadienne, quand on pense au volet plus communautaire, là, oublions le soutien à des grandes entreprises canadiennes, ensuite le volet plus communautaire qui est en fait un volet qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui répond à un principe de marketing d'une part, là, donner une bonne image canadienne, mais aussi, je dirais, anesthésier l'opinion publique canadienne en laissant croire qu'effectivement le Canada est vraiment bon parce qu'il fait vraiment des projets d'intervention publiquement. Le caractère arbitraire de cette aide, qui est conditionnel effectivement à la politique du commerce international et du ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère agglutiné, là. En plus, est étalonné sur les politiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, parce qu'on sait qu'il y a une dizaine d'années, l'ACDI a décidé de soutenir en priorité les pays qui souscrivaient au plan d'ajustement structurel, lesquels plans, on le sait, concouraient radicalement à leur pauvreté, parce que bon, j'ai pas besoin de refaire toute cette démonstration-là, ça a été fait tant et plus, mais on sait que les plans d'ajustement structurel ont amené les pays à sabrer dans les maigres et rares programmes publics qui existaient, à ouvrir complètement leur pays à la concurrence internationale, alors qu'il n'y a aucune structure qui permet à ces pays-là de jouer ce jeu de la concurrence, quoi, je veux dire. Et c'est sûr que les plans d'ajustement structurel sont des méthodes pour favoriser les multinationales et que ces plans-là n'auraient jamais été appliqués ou adoptés par les pays qui en faisaient eux-mêmes la promotion. Les États-Unis, par exemple, se mettraient pas aujourd'hui à ouvrir absolument leurs frontières s'ils n'avaient pas, ils le font pas d'ailleurs dans différents secteurs, d'une part. D'autre part, ils le feraient pas s'ils étaient dans la situation des pays du Sud. Mais enfin, peu importe. Quand on a compris ça, effectivement, que cette aide-là à des plus communautaires, quoi, à des pays est variable, changeante, versatile, absolument imprévisible, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, nos chefs d'État sont tellement conditionnés par leur formation en économie politique, en sciences politiques, dans des optiques libérales, qu'ils gèrent vraiment l'État comme toute entreprise privée et donc comme une fondation privée. Et on a souvent reproché au modèle anglo-saxon, contrairement au modèle étatiste, disons à la française ou un petit peu quelque part à la québécoise, de laisser en fait le capital jouer le rôle de l'État. En disant, bon, mais par des exemptions d'impôts, on va encourager les entreprises à créer des fondations qui vont, elles, soutenir les systèmes de santé, le système d'éducation, la culture, ainsi de suite. Et effectivement, une fondation créée par une entreprise automobile, par exemple, va soutenir des doctorants dans les sciences humaines, quoi, comme ça se voit en Allemagne aussi, dans le monde protestant, quoi. On s'est dit, voilà, un modèle qui réussit. Mais la critique, ça a été de dire, mais non, parce que cette aide-là est complètement arbitraire, tout d'un coup. Effectivement, un fabricant de logiciels va s'éprendre, je sais pas, des baleines, bon, on va soutenir des ONG qui s'intéressent aux baleines, puis 4 ans plus tard, non, ce sera la famine dans tel pays, puis 3 ans plus tard, ce sera autre chose, et l'argent se promène, et il n'y a pas de planification possible pour être un peu constructif dans les projets à long terme. Bon. C'est ce que l'État est en train de devenir, en fait. C'est un État qui, tout d'un coup, comme le mentionne Bonnie Campbell, qui est une femme très, très modérée sur ces questions-là, je veux dire, si elle se met à critiquer, c'est donc qu'il y a matière à critique, hein. Je veux dire, dans un article du Devoir du 5 février dernier, ce qu'elle mentionne, c'est que l'arbitraire des listes de pays que la GDI soutient ou que le Canada soutient par différents programmes, là, que ce soit Exportation et Développement Canada ou d'autres à la GDI, est tellement variable qu'on ne peut plus élaborer des projets à long terme, qu'on peut plus prendre pour acquis dans un certain nombre de fonds qui permettent donc d'être constructifs dans les programmes qu'on inscrit, qu'on gère et qu'on initie. Donc ça c'est un des problèmes.
Mais est-ce qu'il serait, puis là je pose la question sans en avoir la réponse ni en sachant si tu l'as, mais est-ce que cette liste de pays serait si arbitraire que ça? Est-ce que c'est pas dire qu'elle est arbitraire, est-ce que c'est pas une façon aussi de déresponsabiliser une politique qui peut être une politique économique impérialiste, là, qui est tout à fait planifiée, elle, sur où aller chercher des ressources, lesquelles s'approprier. Et j'en ai pas fait l'analyse exhaustive, mais en regardant l'évolution des listes de pays soutenus, là, au moins les grands changements majeurs, se dessine quand même une politique étrangère contre l'axe du mal, etc.
En fait, c'est vrai que l'épithète arbitraire est intéressant dans la mesure où on pense aux besoins comme tels auxquels sont censés s'attaquer les programmes communautaires d'aide au développement, là, de type créer un orphelinat, puis creuser un puits, guérir certaines maladies, mais ainsi de suite, dont le coût de la guérison est vraiment pas cher pour des pays développés, là, ça peut être $20 pour une opération, une piqûre, peu importe. Bon, un vaccin. Donc, effectivement, c'est arbitraire quand on considère ces besoins-là, ça ne l'est pas quand on considère que tout d'un coup, l'aide canadienne au développement va se trouver non plus au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso, mais au Pérou et en Colombie, parce que là, les Canadiens se découvrent des intérêts. Et il y a sûrement quelqu'un quelque part d'éclairé qui juge qu'il est pertinent pour le Canada de développer des programmes d'aide à la communauté pour redorer son blason. Donc là, il y a ça d'une part qui est en cause. Et ça suppose, j'aimerais qu'on y revienne, je sais que tu as beaucoup à dire là-dessus, ça suppose quand même un fait de responsabilité très grand de la part des figurants Canadiens qui participent à ces programmes-là d'une manière lucrative, parce que ça devient quand même une source de revenus, puis un gagne-pain. Et il faut savoir que lorsqu'on est rétribué par quelqu'un, quelqu'un a intérêt à nous faire faire un certain nombre de choses, et peut-être bien au-delà des mandats officiels. Mais juste avant d'y venir, je dirais un mot, parce que ta question de tout à l'heure le soulevait, sur les conservateurs. Effectivement, les conservateurs permettent en quelque sorte de voir le visage diplomatique canadien tel qu'on aurait dû le voir depuis longtemps. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, au fond. C'est un mal pour un bien, disons, si on cherche absolument à se consoler. Si j'en parle, c'est simplement parce qu'un jour, il y a un universitaire qui avait dit, un professeur qui avait dit... j'ai hâte de revoir le Canada avec son vrai visage. Mais non, le Canada n'a toujours eu que ce visage-là. Le Canada a été historiquement un instrument impérial élaboré par l'Empire britannique pour avoir accès aux ressources naturelles de ce pays-ci au détriment des communautés amérindiennes. Donc le Canada, historiquement, est un pays colonial, prédateur, je veux dire, qui supporte, qui soutient, qui épaule des groupes monopolistiques dans le domaine de la fourrure, dans le domaine agricole, dans le domaine minier, et n'a jamais rien eu d'autre que cette qualité impériale et prédatrice qui consiste à faire main basse sur des ressources. Bon, et celle-ci, et aujourd'hui, il sert de paradis réglementaire, législatif et judiciaire pour une industrie qui se sert de ces institutions-là, historiques, coloniales, pour exploiter les pays du Sud par rapport à un ordre mondial là, qui resterait à définir. Bon, mais ce qui me fait peur, moi, aujourd'hui, c'est... Ce qui me fait peur, parce que là où je me méfie, c'est de voir qu'est-ce que diront ceux qui critiquent les conservateurs lorsque les libéraux reviendront au pouvoir. Avec cette espèce de discours beaucoup plus, un discours d'opérette, là, beaucoup plus feutré, où on reviendra avec une sorte de prétention au bien, où le Canada retrouvera son masque, hein, son masque de toutes les supercheries, où on dira effectivement qu'on est bon, qu'on est capable du bien, que c'est « the world needs more Canada », comme le disent des députés ou n'importe qui très souvent. Il y a même une section dans une librairie centrale d'Ottawa qui a cet intitulé-là, « the world needs more Canada », on serait des pourvoyeurs de biens, quoi. Et là, on laisse les Canadiens aller dans les pays du Sud, vanter le Canada, se présenter fièrement comme Canadien, creuser des puits, pendant qu'en marge de tout ça, être les figurants heureux d'une mascarade évidente, pendant qu'à côté, les entreprises canadiennes jouiront des retombées symboliques de cette image améliorative du Canada.
Mais justement, ça m'amène sur la question de ce que tu dis sur la question de la mission civilisatrice, là, qui serait comme un continuum historique là, du colon au prêtre, en passant par le député aujourd'hui, avec cette phrase de besoin de plus de Canada. Et justement, cette mission d'aide et cette mission civilisatrice, c'est quand même beaucoup un rôle qui est assumé par des ONG. Puis là, je vais me permettre quand même des nuances et des différences. Il y a les grosses ONG qui sont rendues que des entreprises, en fait, des petites et moyennes entreprises qui vendent du projet de développement, même ça fonctionne par appel d'offres, etc. Puis c'est une critique dont j'ai compris l'ampleur de ce phénomène-là en allant à une conférence d'échec à la guerre où ce que des gens d'ONG et d'organismes de coopération internationale critiquaient fortement le rôle qu'étaient amenés à avoir les ONG dans le contexte de la guerre en Afghanistan et la militarisation totale, en fait, de l'aide et des ONG et comment les ONG se trouvent à être dans les bases militaires, à fonctionner avec les militaires au jour le jour. Alors ça a beaucoup choqué. Et soudain, quelqu'un s'est levé dans la salle pour dire « Oui, mais c'est juste sans le masque. C'est ça qui arrive d'habitude, puis c'est juste sans le masque et ça arrive ailleurs. » Et c'est une critique qui est difficile à amener parce que c'est se lever contre le bon sens, le bon sentiment, la vertu, la charité et toutes ces choses en même temps.
Si l'ACDI a un droit de regard sur les documents qu'on produit, pas sous prétexte qu'elle nous a donné de l'argent et qu'on convienne des politiques canadiennes parce qu'elle nous a donné de l'argent, il y a un gros, gros problème. Et je pense que là, il faut à tout le moins intruser, faire preuve de désobéissance civile. Et surtout, et c'est là sur le problème de la gouvernance, là, on pourrait faire 14 000 émissions juste sur la gouvernance, tellement c'est un problème aujourd'hui. Mais selon sur cette question-là, ce qui me gêne beaucoup chez ceux qui touchent à l'argent et qui finissent par goûter quand même au plaisir sélect, hein, de l'élection au sein des participants des cercles de la gouvernance, c'est qu'on finit à un moment donné par intérioriser des discours qui sont des discours unanimistes, qui sont des discours consensuels, qui sont fabriqués par des sémanticiens qui proviennent autant des officines gouvernementales que de l'industrie, que de fondations privées, que de communautés qui sont aux abois pour des miettes, ainsi de suite. Et on finit par tellement intérioriser ce discours-là qu'on parle dans une langue de bois qui devient le propre de son discours, d'une part, et d'autre part, on se finit par attaquer ceux qui ne parlent plus comme nous. Ceux qui devraient être des compagnons de route, qui, eux, ont gardé leur liberté, font preuve de pensée critique, élaborent des discours à partir de leurs propres réflexions, et qui se trouvent en quelque sorte attaqués par ces agents de la gouvernance, quoi, qui ont en quelque sorte, qui sont comme ça aliénés dans une façon particulière de parler. Donc, ceux qui choisissent de se prêter à ces jeux de la bonne gouvernance, peuvent bien le faire, et au fond, peut-être que ce n'est pas plus mal, puisque ces cercles-là existent, que des gens sensibles à certains enjeux y soient, ne serait-ce que pour entendre ce qui s'y dit. Bon, pourquoi pas, si... disons que la question n'est pas tout à fait là, on pourrait toujours se dire que la chaise vide dans ce type de forum serait aussi une bonne stratégie, mais peu importe. Au-delà de ça, le problème, c'est quand ces acteurs-là, qui deviennent effectivement puissants, qui sont en vue, qu'on finit par citer, parce que le pouvoir leur donne accès à une parole publique privilégiée, puis bon, ils sont donc du coup en vue, puis il y a comme une économie médiatique qui se met en branle, bon, plus on est cité, plus on nous cite, bon. Mais ces gens finissent par censurer ce qui ne leur ressemble pas dans leur camp supposé. Là, c'est là où il y a vraiment un problème. Quand quelqu'un nous dit « Ne dites pas que la bonne gouvernance, c'est mauvais. Ne dites pas que le forum auquel je participe ne mène à rien. Ne dites pas que les politiques étrangères canadiennes ne sont pas bonnes. Ne dites pas que vous êtes contre les mines. Ne dites pas que vous êtes contre l'exploitation pétrolière. Ne dites pas que vous êtes contre la présence canadienne en Afrique. Ne dites pas que vous êtes contre les budgets d'aide au développement. » Et là, on se finit par retrouver quelqu'un dans son camp qui est le porte-parole du consensus initié dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure avec un rapport de force tout à fait inégal, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand l'État lui-même est perverti et qu'on est en quelque sorte un élément de sa stratégie, quand on se trouve sur son échiquier comme un pion? C'est un vrai, vrai problème qui suppose de la combativité, des initiatives, de l'imagination, de la pensée critique, des innovations, beaucoup de courage. Et effectivement, c'est pas étonnant que ce soit seulement une minorité qui fasse preuve de tout ça.